vous écoutez l'émission Les Voix d'Autrement, une émission réalisée par l'association Quoi de Neuf, grâce au soutien de la Fondation Jean-Marie Bruno et de la FNARS, la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale.
Les Voix d'Autrement, moi je vois. V-O-I-E-S.
Ah, toi tu vois les Voix d'Autrement.
Les voix, la façon de voir les choses autrement.
D'accord, un cheminement.
Un cheminement autre.
On dit que la voix qui parle est le plus court chemin d'un homme à un autre.
Puis on est autrement, on est tous autrement de toute façon.
Et quand les reporters sans œillères prennent la parole et qu'ils se racontent, l'histoire n'est plus la même. Et les chemins qui les mènent sont des voies d'autrement.
Alors aujourd'hui on va parler du toit avec deux T, celui qui est sur nos têtes, ce qu'on appelle le chez-soi en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la chanson d'Élie Médéros, Toi, mon toit.
Toi, toi, mon toit.
Pas de la musique, les gars. Non, toi, c'est sérieux. Toi, le chez-soi, ce n'est pas seulement quatre murs et un toit. C'est bien plus qu'un simple abri, bien plus qu'un logement avec un prêtre. C'est bien plus profond que le mythe de la bonne mère accueillante avec sa maison dans la prairie. Non, s'il vous plaît, pas ça, les gars. On n'est pas des gogos dans la casa des Ingalls. Merde. À la niche. L'authenticité perdue et que ça saute. Stop les conneries. Sinon, je vous jure que je déménage et que je m'embartasse au fond d'une glaide. Le chez-soi, ce n'est pas qu'une question d'habitat, d'affirmation identitaire ou d'aménagement d'intérieur. C'est aussi une histoire de rapport dynamique et inventif à son propre environnement. Le chez-soi, c'est une construction de soi qui a ses rituels, qui se cache parfois derrière des objets humbles, des gestes domestiques sans héroïsme ou des secrets familiaux. Le chez-soi est l'expression même de la singularité de chaque habitant de cette terre. Chaque chez-soi renferme sa poésie, sa créativité quotidienne, son identité spatiale, son fantasme d'autarcie. La maison ronde plutôt que carrée, le mur en pierre sèche plutôt que le parpaing, la cabane plutôt que le F2, l'autosubsistance ancestrale plutôt que l'obsolescence bétonnée, le squat et les friches plutôt que les loyers exorbitants ou l'arnaque des crédits immobiliers. Bref, rien ne peut aliéner en l'humain ce désir de construction intime, dont absolument personne dans ce monde ne pourra nous déposséder. C'est notre Babylone imprenable. Ouais, super les gars. Vous avez eu la main verte là. Ça, c'est de la bonne crèche où se fait la couler douce peinard sur le ciel bleu. Ouais, on se rapproche là. Bon, ok les gars. Rien de nouveau sous le ciel de San Francisco ou de Ouaga. On revient en Cévennes. Allez les gars, on ferme les volets bleus et on ouvre les rouges. Donc si le chez-soi est soi-disant ce territoire où nous pouvons être le plus authentiquement nous-mêmes, c'est qu'il est avant tout le résultat d'un accord intérieur avec un lieu où on se retrouve vraiment soi, où on fait retour vers soi. Entre mon intérieur et le monde, il y a les limites de ma peau. De la même façon, entre l'intérieur habité et le dehors, il y a les murs durs d'une maison, le feutre doux d'une yourte ou les parois peintes d'un camion de Mercedes. Mais cela suffit-il pour autant à ce que chacun nomme cette seconde peau son chez-soi? La tentation de l'ancrage dans la maison, de la stabilité casanière, du confort domestique, sont des sécurités qui peuvent, à force d'étroitesse, devenir des pièges aliénants et mener au repli individualiste ou au manque d'hospitalité, tout simplement.
On rentre chez soi lentement et tout en regardant les cieux, on se demande...
Yes, le grand Jacques, bien vu les gars. Ça commence à devenir pertinent au niveau musical.
On rentre chez soi lentement et tout en regardant les cieux, on se demande...
Bon les gars, la foire en musette et les fonfons en boucle, ça va bien 30 secondes. Posséder un toit ne signifie pas forcément avoir un chez-soi. Nous verrons au cours des trois prochaines émissions que cette notion de chez-soi n'est pas forcément liée à une habitation précise ou sédentaire. Rendre le monde habitable, se réapproprier le monde par l'autonomie de l'habitant, défendre des espaces inconstructibles par exemple, occuper illégalement un lieu vide, se passer d'intermédiaires ou de courtiers immobiliers, c'est devenu hautement politique pour tous les citoyens du monde. Car habiter le monde est un acte politique, quoi qu'on en dise. Comme l'Indien des plaines, le monde nous dit « Partout où s'étend le ciel, on est chez soi. En tout lieu de cette terre, on est chez soi. » Et même si aujourd'hui la prophétie du Blackfoot peut paraître inactuelle et fausse, ça reste vrai quand même, puisque c'est lui le monde qui le dit. Car enfin, c'est quand même bien nous qui squattons le monde et pas l'inverse. C'est bien lui, notre unique et dernier chez nous.
Chez soi, la première chose que ça me dit, c'est le foyer. Et c'est la lettre Bet qui est la première lettre de la Torah, je crois. Et qui veut dire donc la maison, le foyer. Et c'est aussi la dualité sans laquelle rien n'existe. J'en vois la Maya, etc. Et du coup, c'est mystique parce que c'est à la fois effectivement le fait d'être quelque part détendu, reposé, mais c'est aussi un état d'être, justement, c'est pas forcément localisé, c'est une paix qui est en rapport à la fois avec la terre et avec la famille.
En rupture directe avec le chez-soi, la rue, le premier étage, le premier élément de la rencontre avec l'ensemble, le collectif, c'est la rue.
Salut Abel.
Donc le chez-soi, la rue. Ensuite, le chez-soi dans le sens quiétude, repos, vie quotidienne. Donc partage du quotidien avec les gens qui partagent le chez-soi. Le chez-soi entre monde intérieur, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi la vision intérieure, c'est aussi le mental qui réfléchit dans le chez-soi pour la nature du monde intérieur, quelles sont mes portes ouvertes à l'intérieur de mon être, de ma conscience. Et aussi l'habitat collectif, les partages de vie collective, qu'est-ce qu'il y a dans notre structure d'habitat et habitat collectif, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire le restaurant, c'est-à-dire le bar, c'est-à-dire les... Donc le collectif, donc l'habitat individuel, l'habitat collectif, et les centres de vie, les centres de rassemblement collectif, voilà. La rue, le premier pas hors de chez soi, le fait que tu puisses rencontrer n'importe qui, n'importe quel visage. Et la rue méditative, le sens où tu sors de chez toi, tu es habité dans ton monde intérieur et tu rentres en contact avec les gens qui sont dans leur réalité. Et le croisement de réalité et l'échange simple de la conscience de soi et de l'autre. Bon, voilà.
À propos du chez soi, je dirais que le plus petit dénominateur commun du chez soi, c'est soi. C'est-à-dire que le premier lieu que j'habite, c'est mon corps. Et il me semble que le premier logement, le premier habitat que l'on est, c'est celui-ci. Je le précise parce qu'en fin de compte, tout part de là. On peut avoir, j'ai souvent entendu l'expression qui s'adaptait d'ailleurs à mon histoire, « Vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres ». Et en fin de compte, mon petit chez moi, il se limite à ce qui est posé là sur la chaise. Mais quand on accepte aussi cette dimension-là, c'est pas si petit. Et en fin de compte, quand on arrive à vivre bien en soi, à être un bon habitant de son propre corps, dans sa tête, etc., je crois qu'après, le reste, l'importance des murs, etc., c'est plus une question de sécurité, qu'elle soit réelle ou illusoire d'ailleurs. Je vis dans des murs depuis que je suis né, presque, puisque j'ai fait des choix de rue par moment ou de vagabondage. Techniquement, aucun de ces murs ne m'a appartenu, donc je n'ai jamais eu de chez moi.
Mon corps, je ne peux pas le considérer comme un habitat. Mon corps et moi, on est un. On n'est pas séparable, on n'est pas indissociable. Les trois petits principes, ATT, alimentation, territoire et descendance, on a besoin de son territoire, de son habitat, c'est pour être chez soi, pour se protéger, pour être bien, pour dormir, pour construire sa famille, pour... Voilà. Donc moi, j'arrive pas à dissocier les deux. Je suis pas une âme, je suis pas qu'un corps, je suis les deux. La notion pour moi de l'habitat, c'est soit une grotte, ou que ce soit une petite maison, que ce soit une chambre, il faut que ce soit un lieu.
C'est un périmètre relativement restreint pour moi qui me permet de lire et de dormir. Après, tout ce qui est autres aspects de la vie quotidienne, je peux le partager avec quelqu'un. J'ai souvent habité avec des gens.
Tu as souvent pratiqué la cohabitation.
Voilà.
Un refuge, moi, c'est un refuge, une protection, mon univers intime, j'ai envie de dire, dans lequel je peux choisir de faire rentrer des gens si je veux, quoi. Voilà, c'est plutôt quelque chose autour de la sécurité, mais pas, j'aime pas beaucoup ce terme-là parce qu'il est pas mal galvaudé d'une façon qui convient pas du tout, on va dire, mais disons que, positivement parlant, oui, je rejoins les propos de Jérémy. Et à l'intérieur de ce chez-soi, il y a, j'adhère bien au côté enveloppe corporelle. Le plus fondamental, c'est plutôt ça, pour moi. Enfin, ta vision des choses, tu vois. Oui, il y a plusieurs, c'est un peu le système des poupées russes, quoi. Mmh. Mmh.
Des fois, c'est dur d'avoir un chez-soi. Des fois, on galère pour avoir un chez-soi. Le chez-soi, ça, comme on disait, tout le monde l'a dit, et je trouve très bien, c'est l'endroit où on se construit, quoi. Ça nous donne une forme de statut. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que justement Jérémy, lui, en quelque sorte, ce serait une espèce de locataire éternel. Il s'en fout des murs. Très intéressant comme position. Parce que quelque part, il ne subordonne pas son bonheur aux murs. Il sait très bien qu'il peut changer demain, rien ne changera en lui. Enfin, en tout cas, le travail quotidien. Ça me paraît intéressant. Puis alors, il y a une autre chose qui me paraît intéressante, c'est aussi les projets d'habitation qu'on aurait. Alors, je voulais savoir si l'un d'entre vous avait eu ou avait des projets d'habitation.
Oui. Moi, ça me travaille, enfin, le travail de surtout depuis pas mal d'années, ils nous ont fait comprendre que avoir un habitat, avoir un logement, c'est très très cher. Avoir une maison, c'est très très cher. Et puis, il s'avère à côté qu'il y a des moyens qu'ils ont toujours existé, mais on n'est pas informé, ou pas grand monde qui est informé, pour comprendre qu'on peut, par exemple, je sais pas, on prend les maisons de Hobbit, tout simplement. C'est des maisons qui ont un coût de revient, je crois, 3500, 4000 euros, près, ouais. À peu près. Mmh. Donc, on peut construire son logement avec 5-6 personnes, une pileteuse, et peu de moyens pour une maison de 100 mètres carrés.
Donc maison de Hobbit.
Maison de Hobbit qui ouais. Est confortable, qui est... Qui...
Mais quand même, t'es grand pour un Hobbit.
Ah, donc, mais ça n'a rien à voir, oui, creuse...
C'est la maison qui est petite, mais...
C'est l'appellation, voilà. C'est ce qu'on appelle la maison de Hobbit, c'est les sacs de sable et ouais. De la chaux. Ouais. La façon de construire, le style de...
D'accord.
Après, qu'il soit énormément de façons de construire. En Suisse, ils ont fait des maisons pour 7000 francs suisses, qu'elles sont une espèce de composite entre le carton et le bois et tout ça, qui résiste super bien.
C'est pas la terre qui est importante, c'est ce que tu peux y faire. Donc, bon, disons que cette hypothèse reste envisageable. Mais c'est pareil, la propriété, de toute façon, ça n'a jamais été à l'ordre du jour financièrement parlant, mais enfin, les pauvres sont de très bons accédants à la propriété parce qu'on les tient à la gorge par leur emprunt. Et c'est aussi une façon de tenir les gens pendant des années en les obligeant à s'aliéner à un travail qui est dégueulasse, qui n'est pas intéressant, enfin, des tas de choses, quoi. Donc ça me chiffonne un peu. Et ce qui me chiffonne aussi, c'est les panneaux rouges dans la nature, c'est-à-dire c'est la propriété privée. Mmh. Et en fait, à partir du moment, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même paquet, hein, bien sûr, mais où les gens sont propriétaires, il y a comme quelque chose de l'ordre de la méfiance qui se développe à l'égard de l'autre et des interdits qui se mettent en place pour protéger son bien. Et ça me gêne beaucoup. Et c'est encore plus flagrant dans la nature ou dans les espaces de forêt, vous voyez des panneaux rouges qui polluent visuellement l'espace naturel et qui préviennent de quoi, je ne sais pas trop de quoi exactement, mais en fait du fait que tu n'as pas le droit d'aller te promener, voilà, d'aller marcher tout simplement sous les arbres parce que la propriété est privée. Et ça c'est... Voilà, j'aimerais pas devenir ça.
Un voyageur pour le moment ne peut avoir une maison à moi, donc à un lieu où je décide de m'établir. Je sais pas trouvé encore, donc je suis toujours dans un moment de ma vie où je papillonne de lieu en lieu.
Ce serait une ferme.
Moi, définitif, ouais. Moi, je veux quelque chose.
Dans l'idéal, toi, ton chez toi, ce serait une ferme avec des vaches à côté. Quoi.
Alors moi, mon chez moi, c'est donne-moi mon chez moi. Je suis relié, je suis aussi... Alors ce que je veux dire, le mode de construction locale ici en Lozère, c'est un village, une église. Et ça, à un moment, dans notre, ce qu'on a dit sur l'habitat, c'est pas apparu. Donc, on est dans une nouvelle forme d'habitat, dans une nouvelle forme de société qui a ses repères propres. Mais le mode ancestral, traditionnel, où l'ensemble de la collectivité est regroupée par rapport au temps, il n'est pas apparu pour nous encore.
La naissance du mot privé ce que les Anglais appellent privacy, le home, la maison, l'individuation de l'habitat, a conduit effectivement à ce que dit Stéphane, à ce qu'aujourd'hui, on ne construit plus des maisons autour d'un temple, ouais. autour d'un édifice religieux, ouais. autour d'un idéal communautaire. Ouais. L'idée, c'est de faire du pavillonnaire, du résidentiel. Ouais. On a essayé les grands ensembles dans les années 50, 60, ouais. Pensant insuffler une culture sociale. Et puis, voilà, ça s'est avéré être un désastre, en fait, sur la longueur. Bien qu'il y ait des belles choses aussi.
Il n'y a aucun lieu collectif, il n'y a aucun espace collectif dans les grands ensembles. C'est que des habitats individuels.
Voilà, c'est ça.
Il n'y a aucun espace collectif.
Un mec comme Le Corbusier, par exemple, c'est un fossoyeur de la collectivité, en fait. Mm. Au nom de la collectivité, il l'a fossoyé, la collectivité.
Et là, on est sur un paradoxe qui est intéressant. Il y en a pas mal, des paradoxes, dans ce qu'on a dit, de toute façon. Mais c'est que là, tu parles justement d'une période où la propriété privée n'existait pas, mais pourtant, c'était l'individu qui créait sa maison, avec l'aide de ses voisins, sans qu'il y ait des charges urbanistes ou quoi. Et c'était ça qui créait l'ensemble, parce que voilà, les gens leur disaient, ouais, les bornes se plaçaient, machin. Et aujourd'hui, au contraire, c'est une pensée collective, administrative, réglée, fixée, etc. Et qui fait que l'individu n'a plus de place. Alors que dans l'époque où on était plutôt sur une libre initiative, qui effectivement, au bout d'un moment, a débordé, parce qu'on a fait une hyper-concentration urbaine, et du coup... les villes ont grandi et c'était plus tenable, et il fallait imposer des normes, etc. Mais c'est au nom de la protection de la qualité de vie et de la protection peut-être de la valeur historique, etc., du vivre ensemble, du lien qui pouvait avoir existé dans le village qui était la graine. À partir du moment où il y a une pensée centralisée qui va veiller à ce qu'on vive bien ensemble, justement, on déstructure et on fait disparaître cette mémoire collective et on fait disparaître quelque chose qui était... naturel, qui était animal, on s'était vraiment, voilà, chacun avait posé ses maisons, et puis comme on survivait aux maladies, on faisait des murs pour se protéger du vent, et à partir du moment où on a pensé l'idée de penser l'urbanisme, on l'a défait. Alors qu'avant on ne le pensait pas, il se faisait simplement, et étonnamment, tant bien que mal, c'était pas parfait non plus, mais en tout cas il y avait une homogénéité extraordinaire qu'on peut voir dans les villages un peu préservés, etc.
Si on a une vie... collective avec des interactions et une volonté d'avoir des échanges, à ce moment-là, on a des espaces collectifs différents et on est moins en prédation aux forces attractives abstraites de l'argent. Si on ne définit pas nous-mêmes une société des interactions avec nos proches, on est victime d'un mode de anonyme qui après, on est dans des placards en béton avec une...
Des cases.
On est dans des cases, voilà, on a réduit notre espace vital à ce strict minimum.
Voilà. De toute façon, je pense qu'une zone pavillonnaire, c'est le portrait absolu de l'individualisme forcené de l'homme contemporain.
Mais Stéphane a établi une corrélation intéressante, c'est quand même aussi que l'ère industrielle est allée de corps, parce qu'on a eu une pensée centralisée, une pensée scientifique aussi, qui rationalisait le positivisme et qui permettait de mettre en commun les moyens de... Bon, enfin, c'était aussi une guerre, en fait. C'est ça qu'il faut expliquer, c'est que l'industrie, ça a très vite tourné à la guerre, c'est-à-dire une compétition de moyens pour pouvoir défendre son territoire ou éventuellement annexer celui du voisin. On en revient à la notion de foyer, de défense d'un territoire.
C'est sûr, et puis...
On est dans des zones pavillonnaires, dans des bidonvilles, dans... Tu sais, on regarde bien. C'est aussi des gens qui se ressemblent, c'est que... C'est des gens qui sont pareils, qui sont dans le même fonctionnement, dans la même façon de vivre, dans le même... Donc ça crée une notion de collectif. C'est une collectivité qui est comme...
Qui est clanique, quand même, un peu.
Voilà, oui.
C'est un vrai clivage social, quoi. Mmh.
Ouais. Moi, la collectivité, dans un sens, elle me dérange. Je veux vivre avec des gens, mais je ne veux pas vivre en collectivité avec les gens. Je veux avoir mon temps quand j'ai envie, moi, de faire les choses, pas obligé de suivre ou de faire ou d'être... Parce qu'il y a un nombre qui veut... Non, moi, ça, c'est quelque chose. Mais je peux vivre, je participe s'il y a des choses qu'il faut, mais en dehors de la collectivité en même temps.
Cette fameuse guerre dont parle Alex, la guerre de l'industrialisation, on est rentré dedans il y a un siècle et demi, enfin, en tout cas pour l'élan exponentiel. Et puis, en conclusion, les pauvres comme les riches, on est tous perdants. Et on a tous déjà perdu dans cette guerre. Parce qu'on dispose effectivement de moyens considérables de mise en œuvre aujourd'hui, qui sont mal employés. Dire qui connaît une maison qui a 70 ou 80 ans, et qui a été construite avec du béton. Moi, j'en connais pas. Ou elles ont dû être retapées de fond en comble parce que ce sont des modes de construction qui sont pas pérennes, comme pour tout le reste d'ailleurs. Et je vais rejoindre aussi Abel ensuite sur cet aspect des choses où il existe effectivement plein de méthodes d'habitat qui contournent en plus les lois restrictives de l'État, le troglodyte et les cabanes dans les arbres, par exemple, qui sont légalement possibles de mettre en œuvre, et surtout aussi qui seraient peut-être aussi un moyen encore, à l'heure actuelle, malgré tout, et sans aller rejeter pour autant le système dans son fonctionnement actuel, mais permettre de retrouver justement une certaine individualité dans la pratique de la construction de l'habitat. Bon, un jour, je m'achèterai ou j'aurai un spot de terre, parce que je trouve absurde de devoir payer pour avoir un bout de terre. Elle demande un loyer à qui elle. Bref, mais admettons, et je construirai mon palais d'elfe. Après, le jardin à quoi de neuf, c'est une petite mais vaste zone d'expérimentation à micro-échelle sur laquelle je peux m'entraîner. C'est un concept, je ne demande pas à ce qu'il soit suivi, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que pour moi, c'est l'idéal. Et c'est là où j'en viens en conclusion, c'est que on a tous et toutes certainement notre idéal de l'habitat dans sa forme, son fonctionnement, son espace, etc., qu'on peut essayer justement de mettre en œuvre les énergies communes pour les réaliser. Sans compter sur un système ou sur du papier qu'on appelle argent. Mmh. Le papier, c'est bien pour allumer le feu, pour écrire dessus. Et c'est à ça que ça devrait se limiter. Quoi. Mmh.
Donc effectivement, on a structuré l'habitat, on a structuré la communication, on a tellement voulu structurer qu'on a tout déstructuré parce qu'on a dénaturalisé.
Moi, je crois des fois qu'il faut se poser la bonne question. Quand t'es pauvre et que t'as pas de boulot, que t'as rien, aucune aide et tout ça, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour te nourrir ? C'est l'instinct de survie après qui prend.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, je voulais te dire deux mots. Je te parle en ami, vu qu'on se connaît depuis le berceau. Je t'aime bien. Mais laisse-moi juste te dire que parfois tu délires et souvent tu fais pire. T'as 60 millions de gosses à assumer, des petits anges, des petits diables. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends que parfois à table tu pètes un câble. Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes quand tu les laisses dormir dehors alors que c'est tes mômes. La rumeur court sous les ponts et sur les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et que tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs, je continue de t'aimer.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, tu m'as vu pousser. Depuis 28 ans, toi, t'as pas vraiment changé. À peu de choses près, tu tiens les mêmes propos, les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau. Tiens, regarde, j'ai retrouvé de vieux clichés. On y voit le port de Nantes, en couleur sépia, je te reconnais pas. Qui sont ces hommes enchaînés? Au-dessus de l'image, cette liste, c'est quoi? Petit pays, pourquoi dans ton journal intime avoir déchiré des pages et effacé des lignes? Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Avec ta langue maternelle et celle de tes ancêtres, tes enfants n'en font qu'à leurs lettres. Ils te parlent et tu restes blême quand ils disent je te quitte pour te dire je t'aime.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
Écoute.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Yeah.
Petit, j'aime beaucoup.
J'ai abandonné ma yourte parce qu'on m'a demandé de partir du terrain où j'avais posé ma yourte. Donc j'ai pas pu trouver un autre terrain. Et aussi parce que j'avais besoin de me resocialiser un petit peu. J'ai vécu quand même assez isolé sur le coast du Sauveterre pendant 3 ans. Et j'ai atteint un certain stade... presque de non-retour, où j'avais de plus en plus de mal à aller vers l'humain, et en même temps me rendre compte que ma solitude me faisait stagner intellectuellement et que j'avais besoin de me reconfronter à mes congénères pour faire avancer mes idées. Donc j'ai eu besoin de me resocialiser un peu et j'ai trouvé ce compromis de vivre dans un petit village. Donc l'idéal ça aurait été de trouver une cabane dans les bois, ça reste mon rêve absolu. Mais voilà, j'ai trouvé cette petite maison au bord de Tarn, toute petite, vieillotte. Et d'entrée, ben, j'ai pas mis l'électricité parce que je m'en suis toujours passée, ça fait 13 ans que je vis sans. Très bien, je fais mes bougies en cire. Et un an après, j'ai décidé de couper l'eau parce que je me suis rendu compte qu'ils mettaient du chlore en été. Et puis après, il y a eu un hiver très froid où l'eau a gelé, donc j'ai pris l'habitude d'aller chercher l'eau à la rivière et au Viala. Et du coup, j'ai gardé cette habitude, parce que finalement, les tuyaux, ça se bouge, ça fuit. C'est pas très fonctionnel, finalement, je trouve. Il y a beaucoup moins de problèmes quand on récupère l'eau et quand on va la chercher, pour moi.
D'ailleurs, quand on arrive devant chez toi, il y a un ensemble de bassines voilà. Remplies d'eau, d'ailleurs.
Voilà, je récupère l'eau de pluie. Le long des gouttières, et puis quand il n'y en a plus, ben, je vais la chercher à la rivière. Et sinon, je vais chercher de l'eau potable au Viala, à un petit quart d'heure de marche. Et j'ai une autre sorte d'eau que je prends plus près, à l'église, que je fais bouillir, parce que je ne suis pas sûre complètement de sa pureté. Donc j'ai quatre sortes d'eau.
Mais pour tout cas, pas l'eau publique.
Pas l'eau publique au chlore.
Ouais. Tu la laisses pour les autres.
Et qui passe dans les tuyaux très douteux.
Très plombé.
Oui, ouais. Voilà.
Ouais. Alors, tu disais que tu faisais tes bougies aussi, ouais.
Oui.
Donc, ça fait donc 13 ans que tu vis à la bougie.
Oui.
Tu lis à la bougie.
Je lis à la bougie. Deux bougies pour lire. Une bougie pour le reste.
D'accord. Deux bougies pour lire.
Oui, c'est mieux. Sinon, dans l'après-midi, je tourne mon fauteuil vers la fenêtre et je profite de la lumière du jour.
Donc, le rituel de la bougie, il faut combien de bougies pour un mois d'électricité?
C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que j'en fais à peu près une centaine tous les 3-4 mois. Évidemment, j'en consomme plus l'hiver que l'été. Bon, j'en offre un petit peu de temps en temps, donc je ne peux pas vraiment faire un calcul précis. Il faut savoir qu'une bougie, plus elle sèche longtemps et plus longtemps elle mettra de temps à se consumer. Donc il faut toujours faire un peu des bougies vraiment en avance pour qu'elles aient le temps de sécher. Et sinon, donc une bougie, je fais des petites bougies qui peuvent durer 3-4 heures.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Mais le fait de vivre à la bougie, ça m'a permis de me rendre compte que des fois, on n'a pas besoin de lumière quand on est chez soi, qu'on écoute la radio, qu'on est posé dans son fauteuil. On peut être dans la pénombre. Et je me rends compte que les gens sont constamment dans la lumière chez eux alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Voilà, tout petit.
Petit aparté.
Voilà.
Notamment la lumière de la télévision aussi, oui. Des choses qu'il n'y a pas ici et qu'il n'y aura jamais. Par contre, c'est la radio.
Voilà.
Donc tu écoutes la radio, en fait, c'est ton lien au monde.
C'est mon lien au monde, c'est ma fenêtre sur le monde, comme je dis toujours, pour continuer à voir jusqu'où ira la connerie humaine. Et voilà, pour me tenir au courant, j'écoute une émission scientifique, littéraire. C'est quand même ma petite compagnie. Ma petite compagnie que j'écoute quand même au quotidien.
Quand tu ramènes des morceaux de bois longs comme trois hommes, et que tu traverses le vieux pont,
oui.
et que tous les visages sont interloqués, ébahis, et regardent ça comme une espèce de spectacle. Il y a 100 ans. Et je me rappelle, c'est vrai qu'au début, il y en a qui. Je dirais que tu as acquis le respect des gens du pont, du fait que tu as répété ces mêmes rituels au fur et à mesure, et les gens se disent.
Au fil des voilà. Hivers.
C'est un peu comme la mamie d'antan. C'est devenu un peu comme une espèce de pièce de musée.
Oui.
Vivante.
Tout à fait, je m'en rends compte. Je suis même pris en photo par certains touristes quand je sors de mon bois.
Donc, quand même, ils ont une forme d'admiration.
Oui, surtout les anciens,
ouais,
d'ailleurs.
Ouais.
Surtout les anciens, qui ont vécu cette vie-là et qui savent ce que c'est et qui ne comprennent pas que j'y retourne par choix. Mais qui, effectivement, je sens du respect de leur part. Au début, c'était un peu des ricanements, d'amusement. Avec ça, tu vas pas aller bien loin. Et finalement, moi, c'est pareil, ça fait 13 ans que je fais mon bois à la main, que je vais chercher du bois mort uniquement. Pour moi, c'est inadmissible de couper un arbre pour se chauffer. Tout le monde le fait, mais pour moi, je trouve que abattre un être vieux de 100 ans juste pour que ça parte en fumée, ça n'a pas lieu d'être. Il y a assez de bois mort qui peut servir à ça. Donc je continue à me chauffer comme ça. Je ne fais pas un feu du matin au soir, il ne fait jamais 20 degrés chez moi. Je garde 2 puces s'il faut. Donc c'est...
La température ambiante, c'est 12-13.
Oui, merci. Voilà. Oui. J'ai même passé l'hiver à 8 degrés une fois, là, avec une cuisinière qui ne marchait pas très bien. Là, c'était un peu dur. Mais voilà, 10-12 degrés, ça suffit largement. Ce que je veux dire, c'est que cette vie où je vais chercher l'eau, le bois, où je fais ma lumière, m'a appris la parcimonie et la valeur des choses dans une société d'ultra-gaspillage. Donc c'est ça pour moi qui est révélateur.
Oui, c'est sûr que en plus c'est une sobriété affichée, assumée
et heureuse.
Et heureuse, voilà, en plus heureuse, ouais. Alors tu disais tout à l'heure que ton rêve quand même, ce serait de retourner dans une cabane,
oui,
dans les bois,
oui,
ou dans une yourte, tout du moins. Pourquoi alors, pourquoi la cabane et la yourte?
Parce que la yourte, on ne peut pas trop la mettre en forêt. C'est vraiment un habitat de plaine, hein, ou de plateau. Et moi, j'aime la forêt par-dessus tout. Donc, pour vivre dans une forêt, une cabane ou une grotte. Voilà. Donc, je suis patiente. J'espère qu'un jour, je trouverai mon petit coin de forêt. C'est mon but ultime quand même.
Ouais. Ouais. Alors, pourquoi la cabane? Parce que justement, la cabane, c'est comme si on ne mettait pas d'épaisseur entre soi et le monde.
Exactement. Alors, ça, c'est exactement ce que j'ai vécu dans la yourte. C'est que dans une yourte, on vit avec les éléments extérieurs. C'est-à-dire que quand il y a du vent, le vent pénètre dans la yourte. Quand il pleut, ben, l'eau peut rentrer par le sol ou par le plafond. La chaleur est là aussi. C'est une vraie étuve l'été. C'est beaucoup plus agréable l'hiver que l'été, une yourte, finalement. Et en fait, c'est un habitat humble qui nous apprend à vivre avec les éléments et qui nous apprend à confronter notre corps aux rigueurs du temps et pas toujours chercher le confort absolu et l'absence de petites souffrances liées au froid, au chaud.
Il faut beaucoup de laine, hein, par contre.
Oui,
je vous confirme.
Oui, beaucoup, oui, beaucoup de.
De couches de chaleur.
De chaleur, de techniques aussi. J'ai des briques réfractaires quand il fait vraiment trop froid. Je les fais chauffer, puis je me les cale contre le dos, je les mets dans le lit. Je retrouve des vieilles techniques d'antan, que je redécouvre finalement, quelque part.
Mmh. Alors, en parlant un petit peu de ton chez-toi, il y a quand même un personnage qu'on entend derrière, Grenier, c'est Chaounou.
C'est Chaounou.
Voilà, ça fait partie des compagnons qui...
Il
y a toujours un chien
voilà,
avec toi.
Je me sens en incomplétude quand j'ai pas un chien. Je me sens complète avec un chien.
Donc il y a Chaounou le chien qui complète. Il y a la bibliothèque qui a quand même aussi un endroit. Et puis il y a des chapeaux. Il y a aussi des chapeaux. La collection des chapeaux, là, il y a une belle photo.
Là, sur un arbre à chapeaux.
Ouais, il y a un arbre à chapeaux, là. Donc on dirait que ça résume parfaitement Prosperine. Hein,
oui, l'intérieur de mon chez moi reflète complètement...
L'extérieur.
Oui,
ouais, c'est vrai.
Vraiment.
C'est transparent. Ouais.
Et c'est vraiment tout a un sens, quoi. Il y a beaucoup de crânes d'animaux,
ouais,
de plumes, de cailloux, voilà, d'objets de la nature.
De loups aussi.
Le loup.
Ouais.
Pas de plastique, à part ma radio.
Il n'y a qu'un radio qui est en plastique.
Voilà, j'ai chassé tout le plastique de chez moi. Ça fait 20 ans que je fais la guerre au plastique.
Il n'y a pas de plastique.
Quand j'achète des livres qui ont été plastifiés, je l'enlève.
D'accord.
Et le plastique, c'est devenu comme une allergie chez moi. C'est très puissant.
D'accord. Bah là aussi, donc, du coup, ta vie, ton chez-toi, est en conséquence parfaitement aussi avec...
Un accord.
Ouais.
Pratiquement. Ouais. Il y a sûrement quelques petits...
Ouais. Ouais, bah forcément.
Ouais.
On fait encore des petites contradictions qu'on peut encore chatouiller.
Bien sûr.
Ce ne serait pas drôle.
Il y en a toujours. Ouais, ouais. Il y en a toujours, mais ça, c'est amusant. C'est que quand on a un mode de vie radical, soit on va nous reprocher notre radicalité en mettant l'accent sur le fait qu'on va trop loin sur certaines choses, Par contre, quand on a des petites entorses à notre radicalité, ben là, on va aussi le pointer du doigt. Donc, tout ça, maintenant, ça me passe par-dessus. Je suis bien solide dans ma vie, heureuse, complètement en accord. Et
puis moi, étant habitant du pont, je vois que tu es totalement fondu.
Oui, voilà. Oui, oui, enfin, finalement.
Tu n'es plus du tout vécu comme une excentricité.
Non, 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 je suis rentrée dans ce village.
Pas dans le moule, mais
oui, non.
Parce que ce serait bizarre de dire ça.
Non.
Mais complètement accepté, en tout cas.
Accepté, ouais. Accepté. Ouais. Et,
respecté, même.
Le regard a changé quand j'ai diffusé mon roman, La Révolte des Simples, où la plupart des gens du village l'ont acheté, lu, et ça leur a permis de comprendre voilà, ce pourquoi j'en étais là aujourd'hui, et donc ça, voilà, ça les a peut-être rassurés un petit peu, et oui, c'est vrai que je me sens bien ici. Quoi.
C'est vrai. Mais c'est bien de montrer que les choses sont possibles.
Exactement, en fait. Exactement.
Et tout en gardant le sourire et la bonhomie qui va avec.
Voilà, quoi. C'est ça qui les étonne aussi, hein, c'est que, voilà, je suis, ils voient bien que
pas du tout prosélyte, ouais.
Non, pas du tout, ça j'ai arrêté de l'être, je l'ai beaucoup été. Mais justement, ça c'est quelque chose que j'ai compris, quand j'étais sur le COS, ma vie ne servait qu'à moi. Et j'avais vraiment pas l'impression de pouvoir partager quelque chose. Et de toucher les gens avec ce mode de vie un peu particulier. Et en fait, en arrivant au pont, les gens m'ont vu vivre comme ça et j'ai beaucoup plus touché les gens. Je me souviens d'une fois où je faisais ma lessive au lavoir et deux couples de touristes sont arrêtés, des gens qui voyagent en Thaïlande pour aller voir des gens qui vivent dans la simplicité, et puis se sont rendus compte qu'il y avait aussi des gens ici qui pouvaient faire pareil. Et ça s'est terminé, une tisane à la maison, on discutait, c'était vraiment chouette, ils ont été touchés par ça, et je me suis rendu compte que je touchais les gens, finalement, en vivant cette vie-là, hors de la modernité, au sein d'un village,
c'est plutôt comme si,
que perdu dans la forêt. Ouais.
C'est comme si tu étais la dernière survivante de l'époque de Stevenson.
Oui, exactement, exactement.
On te met à côté de l'Alan,
voilà, tout ça,
ça fait 19e, quoi.
Ça colle. Ouais,
sur le pont, pas de soucis, on y est, quoi. Ouais.
Voilà, c'est vrai qu'on me voit maintenant voilà, faire mes cueillettes. J'ai vraiment la vie des vieilles grand-mères d'autrefois.
Ouais. Une dernière chose sur le chez-soi en tant que tel. Est-ce que pour toi, il a une importance fondamentale? C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais le quitter du jour au lendemain sans que ça te fasse ni chaud ni froid? Ou est-ce que, au contraire, chaque objet qui sont là participe d'une intériorité telle que tu ne pourrais pas t'en séparer?
Ah, c'est exactement ça. Je pourrais pas m'en. J'ai beaucoup de mal à quitter mon chez-moi, même pour quelques jours. C'est mon refuge, c'est mon univers, c'est tout le récit de ma vie aussi, parce que chaque petit objet, lié à un souvenir de mes vies. Et mon chez-moi, c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup la solitude. J'ai un petit peu voyagé, j'ai un petit peu eu une vie un petit peu nomade et comme ça, à droite à gauche. Et là, je crois que je pourrais presque plus. J'ai vraiment besoin de m'ancrer depuis que je suis au pont Nanvert. J'ai ce sentiment de m'enraciner et de plus envie d'aller courir le monde et d'être là, dans mon chez-moi. Mmh.
Et c'est pas une forme de repli identitaire, hein. C'est pas casanier chez toi.
Pas du tout, pas du tout.
Parce que ça pourrait être pris comme ça, mais c'est pas du tout ça. Pour te connaissance, justement, c'est pas ça.
Non, non. Ouais. Je pars beaucoup marcher dans la forêt, évidemment. Bon, je me rends compte que j'ai quand même de moins en moins besoin des humains, de leur compagnie. Mais je garde une petite vie sociale malgré tout. Mais c'est pas casanier parce que, en fait, quand je suis chez moi, je voyage, je fais des voyages immobiles, mais très loin. Je voyage beaucoup, voilà, à l'intérieur.
Et qui mettrait un os de. un crâne de chien à côté de tes livres,
oui.
Et un chapeau sur une. C'est un âne, ça?
C'est un âne, c'est Gobi, ouais.
C'est Gobi l'âne.
Le crâne de chien, je l'ai trouvé au pont Nanvert,
ouais.
Première année.
Et pour toi, ils sont chargés de quoi?
Ben, d'animalité. C'est des reliques animales, c'est ce qui reste de l'animal et c'est ce qui reste. Mmh. C'est ce qui est là, c'est ce qui est au-delà.
Au-delà de l'animal lui-même, en fait.
puis au-delà de la vie, quoi, ouais. Hein, qui reste là malgré après la mort. Il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. C'est pour ça que j'aime aussi les fleurs séchées. Les fleurs, je les fais toujours sécher pour qu'elles restent.
Donc tu les coupes alors aussi alors.
Non, des fleurs qu'on peut m'offrir.
D'accord.
Voilà, ma mère parfois qui peut m'offrir une rose.
D'accord, tu fais sécher les fleurs.
Voilà, je la laisse épanouir quelques jours dans l'eau, puis avant qu'elle se fane, je la fais sécher pour que du coup elle disparaisse pas complètement et qu'elle reste.
Donc elle a plusieurs vies la rose.
Voilà.
D'accord.
C'est ça.
Avec toi.
J'ai beaucoup, je suis un peu fétichiste. Hein, si tu t'approches un petit peu de mon étagère, tu vas voir qu'il y a un escargot qui s'est collé sur le reflet d'un œil d'homme de Nancy Houston.
Ah, tu l'as laissé,
oui. Ben oui, il est venu là tout seul, il est là, il dort, je le laisse. J'ai trouvé une petite vipère écrasée, je n'ai pas pu m'empêcher de la prendre et de la mettre là. Très fétichiste, très des petites choses comme ça. Même une petite feuille qui va voler chez moi, tout à coup, une petite feuille de S qui rentre par le vent chez moi, je la trouve là.
Tout de suite, tu lui fais une passe
dans la maison. Voilà, je lui fais une passe dans la maison.
C'est la même chose que j'imagine que quand tu te promènes et que tu trouves une plume, pour toi c'est cadeau.
Ah, complètement. Ouais. Je la mets sur mon chapeau de suite et puis après je lui trouve une place. Ouais. C'est des cadeaux, c'est des cadeaux de la nature.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je voyais bien comme ça, tu vois.
Complètement. Ah oui, direct.
Toi, tu es ce soleil aveuglant les étoiles. Quand tu parles au mourant, sa douleur est si douce. Pour trouver le ravage et tuer l'animal, pour trouver le refuge, tu es mieux que nous tous. Natar, je dis que je ne peux rêver la vie sans toi. J'ai mémoire des eaux où je me suis baigné. Maintenant que je vis, que je rêve à la fois, tout mon être voudrait que tu sois le dernier, Natar. Mais je ne veux pas mourir sur ce rocher à corps, à la vue des autres abusés par les dieux. Il n'y a pas de fleurs pour jeter sur mon corps, et qui donc frappera le tambour de l'adieu? Je te le redis, je te suivrai dans la fosse, mais je veux de la terre au Natar, tu m'entends? Si cela te convient, si la vie nous exauce, nous serons ensemble jusqu'à la fin des temps. Mais je suis si inquiète, la lumière retarde. Un peu plus chaque jour, ton silence m'opprime. Ouvre les yeux et vois que les loups nous regardent. Ils ont déjà choisi le moment, la victime. Et voilà que s'échappe dans le ciel obscurci le souffle du chaman étranglé de remords. Vois, il tremble de peur et ses doigts sont noircis. Et pendant que je t'aime, il appelle la mort. Si la mort se hasarde à souffler jusqu'ici, dans ces brumes finales où s'achève le monde, sois certain qu'elle ne viendra pas que pour lui. Cachons bien nos blessures, elle s'en vient pour le nombre. Ô Natar bien-aimé, moi mon cœur a conclu. Moi je meurs de mourir dans ce funeste camp. Oui, nous sommes perdus comme nul ne le fut. Oui, nous sommes perdus, mais encore vivants. Ouvre les yeux et vois cette nuée d'oiseaux. À l'assaut de la mer inconnue, où vont-ils? Moi je dis que là-bas il y a des roseaux. Allons voir, allons voir. Je devine des ailes. Le jour se lève, me nourrit et se couche sur des plumes divines et des cavernes sûres. Il y aura de l'eau chaude comme ta bouche pour accoucher la fille. fermé sa blessure. À ton signe, à ta voix recueillie sous tes lances, des troupeaux de bisons réclamant sacrifice. Et quand éclatera la lune d'abondance, des orages de fruits pour que vive ton fils. Destin le mien, nous ne mangerons plus, nous irons frayer aux savanes intérieures. Et tu enflammeras mon désir pur et nu, que je hurle ta joie, que tu craches mon cœur. Et si par miracle nos prières parviennent à calmer ces dieux fous que la douleur fascine, je n'accepterai pas que l'un d'eux me ramène où j'ai pleuré du sable et mangé des racines. Je ne retourne pas sur les lieux des anciens, sous les lois de guerriers débouchant aux clairières, la mémoire brûlée, le flambeau à la main. S'il me faut retourner, je retourne à la mer. Je suis jeune Natar, comme un faon dans l'aurore, et la vive de moi et voudrait que tu viennes. Réveillons la horde, je l'entends qu'il implore. Attachons les épaves aux vessies des baleines. Nous serons les premiers à goûter aux amandes. Traversons, traversons, amenons qui le veut. Oh, aime-moi, aide-moi. Ventre veut fendre, je suis pleine Natar, je suis pleine Natar, il me faudra du feu.
Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la lettre bête, le foyer. Chez soi, c'est le feu, c'est l'élément feu qui consume le passé, qui rapporte de la chaleur, un peu de sécurité, parce qu'au moins dans l'imaginaire, il éloigne les bêtes sauvages. Et parce qu'on se réunit autour et qu'on partage. Donc on est aussi dans un chez-soi qui n'est pas un chez-soi physique clos avec des murs, mais qui est aussi un chez-soi partagé, parce qu'on fait appel à l'habitat primitif de l'homme préhistorique, duquel descendent nos notions justement de propriété, d'habitation, etc., telles qu'elles ont pu évoluer. Et ils étaient chez eux là où ils s'arrêtaient. Ils s'arrêtaient pour quelques semaines. Homo sapiens a conquis la planète à la vitesse d'un kilomètre par siècle. On peut dire qu'il était relativement sédentaire. Un kilomètre par siècle pour la progression d'une espèce, c'est pas rapide. Erectus, c'était un kilomètre par an, donc 100 fois plus vite. C'est des statistiques, hein, y a des variantes, etc. Mais il peut y avoir des individus qui s'éloignaient et puis qui revenaient.
Mais on a fait le tour de la Terre.
Mais enfin voilà, donc moi je reviens à cette notion-là de foyer, d'espace partagé. Et puis la sécurité m'intéresse parce qu'effectivement elle appelle l'insécurité et du coup on idéalisait un peu le village originel, l'habitat primitif, etc. Alors, je serais tenté de le faire sur l'homme préhistorique parce qu'il est tellement lointain qu'on peut avoir que des supputations, mais on pense qu'il y avait peu de violence à l'âge préhistorique. On n'a jamais trouvé de cadavre d'homme préhistorique, pour le peu que j'en sais, qui a été victime d'un meurtre. Donc c'est une énigme aujourd'hui. On fait de l'anthropologie du crime des hommes préhistoriques et finalement, de plus en plus, on pense qu'il y avait peu ou pas de violence dans ces sociétés-là. Peut-être parce qu'elles avaient tellement affaire à des violences d'autres animaux, des maladies, etc. La vie était tellement précieuse qu'on luttait ensemble pour la protéger et pas les uns contre les autres. Là aussi, on va appeler une question de densité de population, et on en revient aussi à l'idée de l'ère industrielle, parce que c'est quand même l'ère industrielle qui nous a permis d'être des élevages humains suffisamment denses et suffisamment nombreux pour qu'il puisse y avoir vraiment une question de frontières. Mais encore une fois, j'aime bien rappeler cette idée originelle du foyer, un espace de paix partagé, de parole aussi, donc, et de rencontre. Et après, il faut qu'avec ça, on a un azimut qui transcende la mobilité et le chez-soi, tu avais dit chez-soi, et l'ailleurs. Voilà. Donc je trouve qu'on a un véhicule psychologique, non philosophique, qui permet de transcender les deux. Donc on a un étalon Et le chez-soi, quand on est en paix et quand on est effectivement avec des gens avec qui ça se passe bien, et puis après, avec qui ça se passe bien, c'est aussi une question de force, de force spirituelle, et de, si ton bien-être est suffisamment établi, ben peut-être qu'il y a un état à partir duquel il n'y a plus de rencontres qui puissent te faire te sentir mal. Tu laisses l'autre livré à ses tourments, même s'il fait du bruit ou qu'il est menaçant. Si ta paix est suffisamment établie, elle est peut-être plus difficile à prendre que le plus haut des châteaux.
Quand même, l'habitat rural, la notion d'espace rural, la façon dont on y vit, comment on peut. Ça pose la question de comment vivre la ruralité, comment vivre, je sais pas, il y a une base qui est incontournable, c'est l'agriculture, quoi. Soit on est 1%, soit on est 20%, quoi. Soit on voit vers une redynamisation, la vie rurale avec pour base l'homme qui est acteur, qui est acteur direct, sans tous ces outils, voilà. La place de l'homme dans l'agriculture, et à partir de là, la structure de l'habitat peut changer. Il est un incontournable pour moi.
Tu veux dire que si on revient aux sociétés agraires, on reviendra au village et au temple.
Le temple qui existe encore dans les grandes villes, c'est l'hypermarché.
Un homme qui a ce beau sourire aux lèvres, c'est un consommateur heureux. C'est à ça que doit ressembler une personne économiquement viable.
Un temple laïque, aseptisé, pas trop spirituel, comme les médicaments qu'on comprend, les traitements psychiatriques que prennent les gens, justement, malheureux de la vie urbaine moderne, c'est des drogues chamaniques qu'on utilisait il y a des milliers d'années, auxquelles on a enlevé les molécules hallucinogènes. Elles ont été traitées pour perdre leur propriété hallucinatoire. Voilà, le temple, c'est une forme édulcorée, comme l'hôpital, et une forme édulcorée de l'habitat ancien. L'habitat, c'est des murs, c'est des fenêtres, c'est un toit. Quand on va dans un internat d'un lycée moderne ou dans un hôpital ou dans une maison de retraite, on va retrouver exactement les mêmes normes européennes de murs anti-feu, de portes coupe-feu, de machin, de trucs. Ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est terrible. On est et on meurt dans le même endroit, en fait, complètement aseptisé, qui n'a plus de synergie avec l'endroit parce que c'est pas les pierres d'un lieu qui ont été prises, etc. Et donc c'est un temple qui a été conformisé. C'est le temple, justement, la maison où habite la famille au départ, et puis l'individu aujourd'hui, ça n'est plus la famille. C'est peut-être la différence qu'il y a eu à partir du 17e. C'est plus une famille qui habite dans une maison, qui est liée à une terre et à une descendance, mais c'est un individu qui est lié à un travail et à un bassin d'emploi, comme disait Stéphane. Mais en tout cas, je pense qu'il est intéressant de creuser cette notion de temple. C'est Robert Musil qui disait que les villages sont construits de maisons qui sont réunies autour d'une église, comme les poussins autour d'une poule. On peut aussi s'en moquer du temple, de l'église qui est là comme le chien de troupeau qui garde le berger et qui nous protège des méchants loups. On revient à la sécurité.
Alors, moi, je viens d'un pays où chez moi, c'était une pièce avec des tapis où il n'y a rien. Mais qu'est-ce que j'étais heureux. Je crois que j'étais... Et je posais ma tête et je dormais. J'étais content de recevoir les gens là parce que je pouvais me poser et être pleinement avec eux.
Tu peux avoir vécu dans une maison nue avec des beaux tapis et ton identité moelleuse s'est conformée là. C'est possible. Et on peut vivre. Je pense un enfant... Si un enfant aime les cabanes, c'est qu'il sait très bien que l'essentiel se résume à rien.
On parlait un peu du monde arabe maghrébin, en tout cas. Là-bas, quand tu arrives quelque part, il y a un devoir d'accueil du voyageur. Et pendant les trois premiers jours, tu peux pas laver ton t-shirt, tu peux pas faire ta vaisselle. Ils t'accueillent comme... Après, au bout de trois jours, tu dois commencer à participer aux tâches ménagères. Mais bon, il y a ce rituel. Donc, si tu te déplaces tous les trois jours, comme ça... Ton seul travail, c'est de voyager, mais partout où tu vas, tu es chez toi, et c'est à peu près vrai dans toute l'Afrique. Hein,
Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut rencontrer en Afrique, en fait, les gens, quand ils te voient faire ton campement trop loin de chez eux, ils viennent te chercher pour te rapprocher de chez eux. Et c'est quelque chose que tu ne trouves pas en France.
Ça m'a rappelé une anecdote. Une fois, j'ai invité une copine de Burkina, qui s'appelait Odile Sankara. C'est la sœur de Thomas Sankara. L'ancien président Burkina qui avait été assassiné, presque comparé exactement, et qui était stupéfaite d'un truc, de la fête des voisins. Ça, c'est pour elle, c'était un truc, elle ne comprenait pas qu'on organise dans nos sociétés des fêtes des voisins. Pour elle, pour une Africaine, c'était, mais
c'était le monde à l'envers. C'était inimaginable. Et c'est vrai que... Et puis, une autre anecdote aussi, tout à l'heure, tu parlais de chez soi, je connaissais quatre Bulgares à Lyon et qui rencontraient des gens dans Lyon, ils ne savaient pas où dormir, et à chaque fois, ils abusaient de l'hospitalité de leurs voisins en leur disant, il n'y a pas de chez soi. On va te montrer, il n'y a pas de chez soi. Et donc, ils s'installaient, mais vraiment, ils venaient à quatre, ils te squattaient chez toi, ils te faisaient une super ambiance, super soirée, ils sortaient la musique et tout. Et le lendemain matin, ils se barraient. Et on ne les revoyait plus. Et si tu veux, ils avaient amené chez les gens qui visitaient comme ça, tu vois, une espèce de questionnement, en fait. Non, chez moi, en fait. Quand quelqu'un peut y faire intrusion, à n'importe quel moment, et c'est aussi la perméabilité et l'hospitalité, en fait. Il y a des chez-soi qui ne sont pas forcément hospitaliers quand tu es dans les zones pavillonnaires, par exemple. Tu vois.
Être chez soi, c'est regarder la lune se lever sur la vaste terre endormie et pouvoir appeler quelqu'un à la fenêtre pour la contempler ensemble.
Il n'y a que deux endroits où l'on n'a pas à se gêner, chez soi et chez les autres.
La joie, c'est de n'être plus jamais chez soi, toujours dehors, affaibli de tout, affamé de tout, partout dans le dehors du monde.
Plutôt que de se promener sur la rive et regarder le poisson d'un œil envieux, mieux vaut rentrer chez soi et tisser un filet.
Et tu ne peux pas être une étoile au firmament, soit une lampe.
Les autres développent en nous surtout le mauvais instinct de la propriété. Il suffit d'être un instant chez eux pour vouloir aussitôt être chez soi.
La solitude chez soi, c'est le drame de la vie pour beaucoup. Pourtant, les êtres les plus heureux que j'ai vus, c'étaient des solitaires.
On est chez soi quand on danse avec les autres et quand la vie est une danse.
Personne ne sait vraiment si je suis né par césarienne, mais ce qui est troublant, c'est que chaque fois que je sors de chez moi, j'éprouve le besoin de passer par la fenêtre.
Moi aussi, j'ai vécu en caravane et dans des endroits avec très peu de confort. J'y étais très bien, mais j'ai aspiré un peu plus tard à avoir un peu plus de confort et d'être entre quatre murs. Ma vie professionnelle m'a pu donner aussi la possibilité, j'ai été obligé de me rapatrier sur la ville, que je connais pas bien, que c'est un endroit où j'ai jamais vécu, j'ai toujours vécu dans la campagne. Et bon, maintenant ici je suis bien, et mes quatre murs, je n'ai pas envie de les laisser. J'ai été routard, c'est pas le mot, pas clochard, attention, routard, pendant une quinzaine d'années où j'ai fait les saisons fruitières, j'ai travaillé chez le paysan, j'ai toujours vécu dehors.
D'accord.
Je couchais dehors, sans toile de tente, rien du tout.
À la Belle Étoile?
Oui, tout le temps.
Donc dans la voiture?
Des abris de fortune, ouais. Droite à gauche, pour m'abriter s'il pleuvait, pour m'abriter du froid, mais bon, je la couvrir de suie, mon duvet, et puis... Ça faisait très bien. Et d'accord. Puis arrivé à ce stade, j'ai eu un enfant, et puis il y a 30 ans, et puis ainsi de suite, j'ai arrêté. Quoi. Tout ça, cette vie de bohème que j'aimais bien, que j'aurais bien continué, mais bon, la situation a fait que j'ai pas pu continuer cette vie de bohème, que j'aurais bien gardée jusqu'à maintenant. Maintenant, je pourrais plus le faire parce que mon état de santé ne me le permettrait pas.
D'accord. Donc, en quelque sorte, tu étais partout chez toi, alors. Quand on est bohème.
Sur la planète, je suis partout chez moi, oui.
Ouais, quand on est bohème,
je suis un être humain, je suis de l'univers, je suis universel. Mmh. Oui.
Parce que du coup, on a tout sur soi quand on dort à la Belle Étoile. On n'a pas besoin de... Son chez-soi, c'est soi.
On n'a besoin de rien.
Son chez-soi, c'est soi.
On est chez nous. J'étais chez moi dans le cosmos, quoi. Mmh. En gros.
D'accord. Et on a l'impression que tu parles de cette période comme si c'était une liberté que tu n'avais jamais retrouvée depuis. Comme si...
Je la retrouverai bien, mais j'ai pas les moyens de le faire au niveau physique. J'ai plus les moyens de le faire au niveau physique, c'est tout. D'accord. Autrement, oui, je reprendrai bien cette vie, mais je peux plus. Je suis obligé de mettre un pied dans l'autre, hein, comme on dit, à l'armée. J'ai jamais fait l'armée, j'ai déserté, pas déserté, j'étais insoumis total, j'ai foutu 7 ans à l'étranger. Pendant 7 ans, j'ai pas pu mettre que le pied sur le sol français parce que je devais 2 ans de prison à la France. Et ce qui m'a permis de voyager beaucoup dans l'Europe, que je connais très bien, sur l'Afrique après, et puis sur une partie de l'Asie. J'ai pas été plus loin qu'en Turquie, mais voilà. Autre question?
J'aime bien, c'est... Non, c'est bien, Pascal, c'est bien.
Je suis pas chez moi, je suis chez nous.
D'accord. C'est ta réponse, à chaque fois?
Chez soi, ça veut rien dire.
T'es citoyen.
C'est quoi? J'ai pas de terrain, j'ai pas de propriété, j'ai rien du tout. Chez moi, ça veut rien dire. Je peux me faire virer de chez moi, inculper l'encul du jour au lendemain si je paye pas. Mm. Bon, alors chez moi, c'est chez nous. Mm. Je peux pas vous dire autre chose.
Mm. D'accord.
Ça me sert à rien. Pourquoi faire être propriétaire? Ça sert à rien. La nature, c'est à tout le monde. C'est pas chez moi, c'est pas chez les autres, c'est chez nous.